Letícia Caieiro! Soyez les bienvenus avec Lila Kadoboudadi, Agnès sur scène. Tout à l'heure, il y aura Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Daniel Morin.
Oui, bonjour.
Albert Agou.
Bonjour.
Et notre invité, Reda Guettel.
Bonjour à tous.
Qui n'est pas là, mais qui ne saurait tarder.
On m'a dit d'ailleurs que très sympa sur lui,
David Olfen était... était avec nous, qui viennent, écoutez,
que le réalisateur
assume les horreurs qu'il a filmées dans Frères Ennemis, ce très bon film, un polar de dingue, sortira le 3 octobre, c'est-à-dire mercredi prochain.
La réalisation n'est pas super.
Et qui réunit quand même deux comédiens extraordinaires ensemble. Et quelle belle idée, David, d'avoir choisi Reda Kateb et Mathias Schoenaerts pour échanger dans ce film. Franchement, c'est une affiche, mais génialissime.
Je suis d'accord avec
vous. Bonjour.
Bonjour. Merci d'être ponctuel, vous. David Olfen, vous avez été d'ailleurs co-scénariste aussi dans votre vie et pas uniquement réalisateur.
C'est vrai. J'écris pour d'autres réalisateurs amis, comme Frédéric Tellier, par exemple, qui était le réalisateur de l'affaire SK1, qui était un polar. Lui,
SK1, serial killer, le premier.
Raphaël Persona.
Histoire vraie, formidable.
L'affreux Guy Georges.
Ouais, exactement, on en avait parlé à ce micro. Vous aimez être au plus proche de la réalité dans ce que vous filmez. Il faut que ce soit, puisque là, ce film, on va quand même donner le pitcher en quelques mots. C'est un enfant sorti des cités, joué par Reda Kateb, qui lui en est non seulement sorti, mais ne retourne même plus chez ses parents, et on sent même qu'il y a un trouble, qu'il y a un malaise quand il veut revoir papa et maman. Je préfère le dire comme ça que son père ou sa mère, qui donne toujours encore un peu plus de distance. Là, c'est vraiment papa, j'ai envie de te voir, j'ai envie de te parler. Et il retourne chez lui, le papier peint n'a pas changé, mais il n'est pas le bienvenu. Et pourquoi? Parce qu'il est devenu policier et il travaille au stup.
Oui, en fait, je pense qu'il n'est pas le bienvenu parce qu'il il s'est construit ailleurs et que je pense que son père a dû sentir du mépris par ce choix. Et que le policier, tout ça, le reproche qui est fait parce qu'il est devenu policier, je pense que c'est la surface. Au fond, c'est... T'as voulu... Là, il y a un dialogue qui dit « Vas-y, retourne à Paris ». Donc la scène a lieu en cité, en banlieue.
Et il dit « À Paris, tu sais même pas où j'habite ».
Et le père lui dit « Vas-y, retourne à Paris
».
Donc dans ce dialogue, on a essayé de mettre toute la blessure du père, le mépris qu'il a senti, que peut-être avait son fils pour lui. Et je pense que c'est ça le fond du problème.
Et les frères ennemis en question, ce sont en fait des amis d'enfance qui ont grandi, qui se connaissent mais par cœur et qui sont plus que des vrais frères.
Et
des
qui,
vrais
et frères. Qui s'aiment.
Ouais, c'est ça. Ils s'aiment, ils se sont choisis. C'est pas des frangins parce que on a les mêmes parents, mais là c'est vraiment ils se sont choisis et ils s'aiment. Sauf que certains sont allés sur un circuit de vente ou de trafic de drogue et l'autre justement pour les courser, ces trafiquants de drogue.
Auto-entrepreneurs, on peut dire.
et pour les attraper. Donc c'est vrai qu'ils s'aiment, c'est vrai qu'ils se respectent, qu'ils se connaissent extrêmement bien, mais qu'ils ne sont pas du même côté de la loi.
Oui, je pense que surtout ils n'ont pas la même faille, ils n'ont pas la même faille intime. L'un qui est interprété par Mathias Schoenaerts, il a grandit seul, on sent qu'il a un besoin d'amour et que je pense qu'il s'est plongé dans un clan qui se trouve être un clan marocain de trafic de drogue, mais ça aurait pu être autre chose. On sent que c'est le plus important, c'est d'être entouré pour lui, de trouver une famille de substitution. Donc il plonge là-dedans. Et le personnage de Driss, joué par Reda Kateb, c'est le contraire. Lui, il a besoin de s'éloigner de cet endroit qui lui semble toxique. Et il fait des choix. Les deux choix ont des prix à payer assez différents.
Mais comment l'idée vous est venue? Alors, c'est une histoire vraie, ça a été étayé, c'est suite à une rencontre?
Alors moi, je reviens à votre question de départ. C'est là, est-ce que vous collez toujours au réel? Sur ce sujet, oui, je pense qu'il faut coller au réel. Sur le sujet qui serait la banlieue, la différence entre Paris et la banlieue, il y a eu beaucoup de films là-dessus, beaucoup de films qui étaient aussi, parfois j'ai l'impression de l'ordre du fantasme de banlieue, du fantasme de vie criminelle. Ouais. Je me suis dit, l'intérêt de ce projet, c'est de pas filmer un fantasme de vie criminelle ou de banlieue, c'est d'aller au réel. Moi, j'ai discuté avec des gros trafiquants de drogue, par l'intermédiaire de leur avocat, par des flics, grâce à l'affaire SK1 notamment. Et j'ai vu que le réel n'était pas très romantique, la vie criminelle n'était pas très romantique. Et je voulais absolument aller nous connecter au réel le plus qu'on pouvait.
Mais comment mettre du romantisme dans cette histoire?
Non, justement, je trouve que la vie criminelle n'est pas romantique et que j'avais envie de montrer ça. J'avais envie de montrer que ce sont des vies.
L'absence de.
Que c'est des vies étroites, que c'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais en fait, changent pas d'endroit, continuent à habiter dans la même cité, peuvent pas dépenser leur fric, ne peuvent pas l'utiliser pour une promotion sociale. Donc, ce sont pour moi quand j'ai discuté avec eux.
Quel est leur moteur si c'est pas gagner de l'argent pour avoir une meilleure vie?
Le moteur, c'est gagner de l'argent. Mais c'est un argent qu'ils ne peuvent pas tellement utiliser pour devenir quelqu'un d'autre ou faire autre chose de leur vie.
Oui, parce que de façon ostentatoire, ce serait louche et du coup, ça attirait les soupçons. Donc c'est juste quoi pour alimenter le quotidien, la famille. On le voit avec Sabrina Ouazani qui incarne cette épouse et mère qui bénéficie en fait du trafic, sachant de loin ce que fait son mari, mais ne voulant pas trop avoir de lien direct avec ça.
Oui, tout à fait. Enfin, c'est de l'argent qui a pas un grand poids sur leur vie, j'ai l'impression. Ça fait peut-être des vacances plus agréables, des intérieurs plus agréables.
Des voitures,
des voitures, certainement, qui vont plus vite. Ouais. Mais j'étais surpris de voir que c'est pas l'argent qui permet de changer de case, en fait. Bah, c'est ça qui m'intéresse.
Ils ne sortent pas de leur milieu social et ils restent près de leurs cousins, de leur famille, de leurs amis, et avec leurs repères, quoi.
Absolument.
Avec leurs valeurs. Reda Kateb nous a rejoint. Merci, Reda. On va justement parler de...
J'ai fait l'intérim, hein, Reda.
En fait, c'était un coup monté. On avait tout fait pour que David puisse parler de son film.
Ça marche bien.
Excusez-moi.
Ça marche bien parce que...
Bonjour, Reda.
Bonjour. Lui, en tout cas, il en parle bien.
Ça commence bien.
Tu sais quoi? Tu vas souffrir pendant 1h30, je t'annonce. Enfin, 1h20. L'heure à la Qatarie. Nous allons parler de Reda Kateb, justement. Question. Il a travaillé à Radio France, Reda Kateb. Il connaît bien cette maison. Il faisait quoi?
Standardiste?
Non.
À l'accueil?
Non.
Videur?
Bah non. Recherchiste, documentaliste,
dealer,
cuisinier,
dealer.
Non, cuisinier. Agnès, ton micro est fermé apparemment.
Régisseur, réalisateur. Il faisait des voix, il faisait la cuisine,
il faisait des bandes à voix,
du doublage
pour les fictions.
Exactement.
Ah, radiophonie.
Exactement.
Des dramatiques radiophoniques.
Tu peux avoir moitié du point.
Absolument, Daniel Morin a le point. Vous étiez donc comédien radio, en fait. C'est ça, parce qu'il faut jouer, c'est dramatique.
Oui, alors j'ai même commencé comme figurant radio.
Ça, c'est une arnaque.
J'ai commencé tout en bas.
C'est trop drôle.
Mais c'est vrai qu'à l'époque, et je pense que ça doit se faire encore très rarement.
Figurant, c'est une vanne.
Non, c'est pas une vanne, c'est dans figurant, cette même maison là où on est.
Un figurant ne parle pas, donc comment on voulait faire figurant radio?
Eh ben justement, à la radio, comme il n'y a pas d'image, les figurants parlent, mais sauf qu'on n'entend pas ce qu'ils disent, c'est-à-dire c'est une foule, vous voyez une manifestation par exemple.
De foule,
vous avez jamais vu ça ici? Mais non, mais c'est vrai, c'est à côté, c'est dans le studio d'à côté là, c'est dans votre maison de la radio.
Ça veut dire on dit quoi? Ramène le pain?
Non,
on dit
ça veut dire...
On est éloigné des micros et on parle à plusieurs.
Ça veut dire, moi je me souviens par exemple d'une dramatique sur le radeau de la Méduse avec le bateau, avec un bruiteur qui avait une tige avec un petit chiffon qui l'agitait pour faire les voiles du bateau devant le micro. Et 50 comédiens pour faire...
Faut pas lancer son truc à Charichon, après, ça va être compliqué. Et fallait faire des voix derrière, des gens qui apercevaient le radeau.
Des gens qui crient, tous ensemble, enfin...
Des poissons, tout ça.
C'est génial.
Ou alors des manifestations.
Enfin, un vrai travail.
Quand, de temps en temps, pardon de dévoiler ce flanc de votre vie...
Ce flanc.
Le flanc, c'est moi.
En même temps, il est 11h13. Moi, j'ai un peu la dalle aussi. Ah ouais.
Quand les huissiers débarquaient chez Reda Kateb, sur qui pouvaient-ils compter?
Quoi?
J'adore ce.
Quand les huissiers.
Le concierge.
Ouais.
Sa allez, maman.
Non, c'est ça. La gardienne de la cité.
Ouais, c'est vrai. Entre autres. Entre autres, qui à l'époque, pendant le trajet d'ascenseur avec l'huissier pour arriver jusqu'au 10e étage où j'habitais. Elle lui remplissait la tête avec 1000 compliments sur moi en disant que j'étais un jeune qui essayait de s'en sortir, qu'elle me connaissait, que elle faisait tout pour qu'il change d'avis. Et puis de toute façon, il rentrait, il disait mais il y a rien à saisir. De toute façon, comme ça, c'est
génial.
En tout cas, si elle nous écoute, merci Madame la gardienne, merci.
Que veut insinuer Reda Kateb quand il dit je ne me laisse pas bambouléiser?
Enfermé dans des rôles de communauté.
Exactement.
Ghettoisé.
Génial, quelle pêche.
Il a bouffé un truc.
Je sais pas. C'est la coque de ce matin qui était bonne.
C'est marrant, ça ne fait pas.
Vous avez... C'est Nicolas Demorand qui m'a vendu.
Pardon pour la vanne par rapport à Frères Ennemis. C'est-à-dire, vous ne vouliez pas jouer le rôle de l'arabe qui réussit.
Ouais, d'ailleurs, je veux toujours pas le jouer, ce rôle-là. Et comme dans Frères Ennemis, je m'aperçois que même si on peut s'affranchir de beaucoup de choses et que moi j'ai vraiment la chance de mener une vie
de patachon,
de figurant radio.
Ce que ça veut dire. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, non, je fais plus de figure à la radio, mais en tout cas, voilà, mener une vie que j'aime. Malgré tout, on essaye régulièrement et à nouveau de nous remettre sans cesse dans des cases.
Ouais. Et donc vous dites non systématiquement.
Non,
ça dépend quand même de l'histoire.
Vous voulez dire au niveau des rôles?
Ouais.
Non, pas du tout. Pas du tout. Je peux jouer à tout type de rôle et d'origine de rôle et de. C'est juste, je veux jouer dans des bons films en fait. Ouais.
De toute façon, votre filmo le prouve aussi. De toute façon, vous pouvez jouer n'importe quoi, n'importe qui. Ah.
C'est vrai que quand on vous voit, on dit c'est n'importe quoi.
Non, c'est pas vrai. Il est jaloux.
C'est toujours le retard que vous faites.
En plus, il est jaloux.
Toute votre vie.
Je
suis jaloux.
Il est jaloux, je ne peux pas aimer quelqu'un de plus que lui, en fait.
Quel est le point commun entre Omar Sy, Jean-Pierre Bacri et Reda Kateb?
Ils sont des râleurs.
Non.
Non. Ils sont amants.
Ils ont une particularité en termes de nomination à des prix, à des participations, festivals.
C'est un point commun professionnel.
Ils ont
le
même dealer.
Non. Ils ont eu le même agent, la même école.
Ils ont eu tous le même César.
Non.
Ils ont joué à Vierzon.
Vous savez, Reda ?
Je commence à.
Ils ont joué dans les films de.
Omar Sy, même réalisateur, le même premier film avec le même premier réalisateur.
Cette fois-ci, Agnès va l'avoir.
Ah bon ?
Ils ont joué dans les films d'eux, mais après j'ai dit
de même réalisateur en l'occurrence, Nakash Toledano.
Alors pour le coup, moi je ne l'ai pas encore fait, mais je commence ce vendredi.
Ouais. Ah, le point est annulé.
Ouais, c'est vrai.
Voilà. Non, mais vous rentrez dans la famille des acteurs, quel sera votre personnage?
Je joue Malik.
Aux côtés de Vincent Cassel. Hein.
Aux côtés de Vincent Cassel. Je joue un personnage qui s'appelle Malik, qui est inspiré de quelqu'un qui a monté une association il y a beaucoup d'années. Daoud Tatou, voilà, que
je connaissais
bien. Et qui s'occupe
deux éducateurs.
Voilà, alors moi j'en joue un des deux.
Écoute, je veux pas les deux.
Ça va. Non, mais je préfère préciser. Hein,
son retard est excusé, là, il était bonne sa blague.
et voilà, et donc il y a pas mal d'années, ils ont monté ensemble, Daoud et Stéphane, des associations pour s'occuper de cas lourds d'autistes, de jeunes autistes finalement qui.
Solution, comme on dit.
Sans solution, voilà, qui très souvent viennent d'institutions psychiatriques, de lieux qui ne savent pas traiter cette pathologie-là, parce qu'en France, il y a encore beaucoup de retard là-dessus et qui font un travail incroyable.
Par rapport à des pays qui ont beaucoup d'avance sur nous, notamment le nord de l'Europe, Albert, c'est ça, ils sont meilleurs que nous?
Oui, certains pays du nord de l'Europe, mais je voudrais préciser que les personnages dont on parle, il y en a un qui est rabbin. Qui est juif et l'autre est musulman et ils travaillent ensemble.
Donc c'est une très belle histoire.
C'est une très très belle histoire.
Très belle histoire. Ça s'appelle Hors Norme. Enfin, pour l'instant en tout cas, le film s'appelle Hors Norme. Il va peut-être changer de titre d'ici la sortie, mais ça restera Hors Norme.
Ça je peux pas le dire, mais en tout cas pour l'instant c'est Hors Norme.
D'accord. Le film donc pour lequel vous êtes réunis, et David Olofen va rester avec nous.
Olofen,
j'ai rajouté un L supplémentaire, pardon. Olofen. Donc ce film sortira mercredi prochain, Frères Ennemis, où vous êtes aux côtés de ce comédien belge que l'on avait découvert dans
Bullhead.
Ah, toi, c'était Bullhead?
Ouais. D'accord. Et après, De Rouillé d'Os.
De Rouillé d'Os.
Ouais, mais Bullhead, faut le voir. Vraiment, si vous avez l'occasion. Mathias Schoenaert, comme ça, qui ressemble à une sorte de veau de compétition piqué à l'hormone. C'est sidérant comme personnage et comme film. Je vous jure, faut le voir.
Dis comme ça, je suis inquiet.
Bullhead.
Veau de compétition piqué aux hormones.
Bah, c'est un type qui se pique aux hormones.
C'est exactement ça.
C'est ça, hein. Okay. Et qui, même physiquement, il y a des trapèzes de dingue. Et c'est une histoire terrible.
L'histoire des frères Bogdanov au cinéma, ouais, piqué aux hormones.
Mais vraiment, Bullhead, si, voilà, c'est
en
pas
tout
quoi
cas,
regarder.
Tous les deux, vous êtes à tomber de justesse, de crédibilité. Enfin voilà, c'est vraiment, vous êtes deux comédiens extrêmement brillants. Et comme je le dis souvent, pour avoir vu de très bons comédiens dans des films où d'un coup ils étaient moins brillants, je me dis que le réalisateur, la direction aussi est très importante. La manière dont c'est filmé, éclairé, monté, la légèreté de la caméra qui vous suit, parce que c'est, on a le sentiment que, je sais pas, c'est une caméra à l'épaule, mais qu'elle est, que c'est presque un portable qui vous suit tellement elle est légère et qu'elle est en mouvement sans donner la gerbe pour autant quand on voit le film sur un grand écran. C'est quand même important cette, ce
pas
sentiment.
Pas vomir au cinéma, c'est vrai qu'elle est d'abord pas.
Non, mais c'est sensible, Nagui, hein.
Non, mais, ouais. Non, mais parce qu'il y a des fictions, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
Mal au cœur.
Il y a des fictions, on a l'impression que le mec, le réalisateur dit au cadreur de bouger pour bouger. Et ça file la gerbe, quoi. Tu vois ça, tu dis, ouais, ça va, quoi. Gauche, droite, droit, hein,
bien sûr, ouais, ouais. Et là, quand c'est gratuit, ou alors voilà. des zooms, enfin, mais, ouais, ouais, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est un tout, on joue ensemble avec Mathias, avec tous les autres acteurs du film. Ça va jusqu'à la figuration, ça va, le cadreur à l'épaule, c'est finalement quelqu'un avec qui on danse. C'est-à-dire que la caméra, elle est sur pattes, quoi, et on peut, ensemble se laisser aller à des impulsions, il nous suit, c'est vraiment un jeu collectif qui se fait à plusieurs et le chef d'orchestre est là pour agencer tout ça, David. Voilà, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup toutes les propositions qui peuvent venir de partout, de l'équipe technique et de ses acteurs, et qui ensuite tranche dans sa vision. Ouais.
Alors on disait que c'était l'histoire de encore plus forte que des vrais frères. Ce sont des amis qui se sont choisis, qui ont grandi ensemble, qui se connaissent par cœur et qui s'aiment, pour reprendre cette phrase qui a pu être choquante dans la bouche de Daniel Morin tout à l'heure, mais qui est quand même
vrai.
Il y a
du mal partout, Nagui.
Ouais. Mais non, mais vous, d'y parler d'amour, ça m'a tellement bouleversé.
Oh, du don, on passe des week-ends ensemble, vous êtes bien contents.
Hein. Et... En tout cas, ces deux garçons, si on reprend l'histoire, ont choisi des trajectoires différentes, mais finissent par se retrouver.
Ouais, enfin, la vie, en tout cas, les a amenés à deux trajectoires différentes. Ouais. À quel point ils les choisissent, à quel point ils les subissent, à quel point, d'ailleurs, ce policier que vous incarnez a voulu être dans les stupes, ou est-ce qu'il a été nommé aux stupes, avec l'arrière-pensée de dire, ouais, lui, il connaît de toute façon les gars de la cité, donc il va pouvoir nous aider.
Ouais. Cette chose-là, c'est une chose que je dis à un moment dans le film, c'est-à-dire les stupes, c'était le seul endroit où ma gueule n'était pas un boulet mais un avantage. Ouais. C'était finalement, voilà, c'est un personnage qui est coincé dans l'ascenseur social, quoi, qui a choisi la police par idéal républicain, par ambition
vocation, ouais.
personnelle, par vocation parce qu'il est bon dans ce métier. Et qui en même temps, à un moment, se retrouve écartelé par une espèce de toile d'araignée sociale, quoi. Et c'est vrai ce que vous dites par rapport à ces gens qui ont grandi ensemble. Moi, avec David, très souvent, on pensait à une photo de classe, une photo de classe d'élèves en primaire où il y a que du talent, en fait, chez des enfants de cet âge-là, il y a que du talent. Et on se demandait, mais qu'est-ce qui fait que certains destins vont pouvoir s'épanouir et que d'autres vont se casser le nez? C'est à quel moment ça se passe? C'est une chose qui est restée avec nous et qui nous a beaucoup hanté pendant tout le tournage.
En fait, qui peut être valable pour toutes les vies. Qu'est-ce qui fait que un copain de bande d'école aujourd'hui est la vie qu'il est et que vous soyez un comédien réputé, reconnu, invité, ayant réussi sa vie?
Oui. Bon, après, il y a des vies qui sont moins spectaculaires, qui sont
enfin
je veux dire, ouais, c'est pas comédien, c'est pas du tout un modèle, c'est pas une chose, c'est une chance et c'est un rêve qu'on réalise,
le modèle est de vivre sa passion,
c'est pas une réussite en soi, c'est pas plus une réussite que
c'est
d'être
pas recommandable, quoi.
Ouais. c'est...
non mais c'est vrai, très souvent on dit l'exemple, enfin ouais. Je veux dire, nous non, on a juste une chance incroyable de vivre un rêve et c'est, on sait qu'il y a pas grand monde qui peut le vivre.
Et pour en revenir donc à votre personnage, il essaye de jongler un tout petit peu entre la loi qu'il respecte, mais il est border le plus souvent.
Bah ça, c'est vraiment le travail des stupes, hein. C'est qu'on leur demande d'être border tout le temps et ils se retrouvent du coup dans des zones où ils doivent laisser passer certaines choses pour remonter des filières. Jusqu'à quel moment on laisse passer? Enfin, il y a eu plein d'affaires ces derniers temps.
Ce qui est fort dans ce film, c'est que c'est à la fois un film de suspense, un film noir, un film de poursuite, de tension. Quand Mathieu est à l'affût du moindre bruit dans n'importe quel couloir, on se dit...
Manuel.
Ah ouais.
Mathias.
Manuel, qui est joué par
j'étais avec Mathias Schoenert, pardon.
Et son personnage, il s'appelle Manuel.
Voilà, ouais. Manuel dans le film, il est. On se dit, ça doit être la vie de traquer à ce point-là. par ses propres ex-potes en se disant je peux me faire buter à n'importe quel angle, n'importe où dans la cité.
C'est haletant, ouais.
C'est un truc de dingue. Et puis il y a les familles, il y a les enfants, il y a les parents, il y a les épouses, il y a les ex qui sont là, qui avec toute leur part d'humanité et qui vivent les décès de certains de leurs membres de la famille ou les descentes de police comme une espèce de quotidien par lesquels elles sont obligées de passer.
Exactement, en fait on rentre dans le film de manière un peu schématique sur les codes du polar avec un voyou, un flic, deux amis d'enfance, le milieu des bandits qui semble très chaleureux alors que le milieu des flics semble plus austère, et en même temps dans cette chaleur de famille des bandits, à n'importe quel moment on peut se prendre une balle dans la nuque par son frère. Il y a quelque chose de...
Je voulais citer justement les femmes qui sont autour de vous aussi dans ce film. Il y a Sabrina Ouazani, il y a Gwendoline Gourvennec, Astrid Wetnal, et puis alors pour les autres comédiens, Sofiane Zermani, que vous avez pris, alors pas spécialement pour l'image de rappeur ou de vedette qu'il peut avoir, c'est ça ?
C'est vrai, mais avant, vous avez ajouté une autre femme qui s'appelle Jeanne Aptekman, qui est co-scénariste du film, et j'ai tenu à faire une dernière partie d'écriture
dialogue,
avec elle.
Dialogue et adaptation avec elle, oui. Et
pour justement veiller à ce qu'il y ait une sensibilité, que ce soit pas un film
de mec.
Justement, je pense qu'elle a beaucoup aidé, beaucoup impulsé sur les scènes dont vous parlez, de famille, d'amour fraternel ou d'amour tout court. Sofiane, c'est la directrice de casting qui nous a présenté. Je l'ai vu comme un comédien. Il a fait des essais comme les autres comédiens que je voyais pour ce rôle-là. Il a été très bon. Et j'avais vu dans un court-métrage qui s'appelle Terre-Mère, qui est l'histoire d'un groupe de potes qui vont enterrer quelqu'un en Mauritanie. Et il était hyper émouvant dans ce film. Et je pense que c'est un comédien hyper talentueux. Un comédien né qui apprend très très vite.
Je pense qu'il y a plein de personnes qui vont voir le film en disant il est bon ce comédien sans savoir qui il est aussi.
Ah, j'en suis sûr. C'est mon fils qui m'a alerté sur qui était Fianso. Moi, pour être tout à fait honnête, je le connaissais pas au moment du casting. Je savais que c'était un rappeur. J'avais pas idée de la...
Ouais, son nom de scène, c'est Fianso. Et Sofiane, son véritable prénom. Nicolas Giraud également. Marc Barbet, Yann Goven, Omar Salim, Ahmed Ben Naïssa. Et j'ai oublié, Adèle Bencherif qui joue Imran.
Extraordinaire.
C'est la première fois depuis qu'on fait la promo de ce film qu'on cite tous ces noms. Merci de le faire, c'est super.
C'est la moindre des politesses. La politesse est, comme d'ailleurs la ponctualité, sont deux valeurs.
Ok, donc on continue, il n'y a pas de problème. Ça continue comme ça, il n'y a pas de souci.
Voici l'humeur d'aller sur scène.
Je n'avais pas compris. Bonjour. Bonjour, Reda Kateb.
Bonjour.
Bonjour, enfin, rebonjour.
À la rédac, concentrez-vous les enfants, avec Nagui, on est toutes d'accord pour dire que vous êtes la virilité 2.0, Reda. Vous êtes cet animal brutal caché sous une féminité délicate, tel Daniel se carapatant sous Leïla quand l'invité est très très méchant. J'ai compris. Pour moi, Reda, en fait, vous êtes un genre de Joe Star qui aurait mangé Marguerite Duras. Vous êtes testostérone et poésie, vous êtes sueur mêlée de grâce. Et non, je ne parle pas d'Albert grimpant 4 à 4 les escaliers pour arriver à l'heure dans le studio. Quand aujourd'hui, la plupart des hommes qui nous entourent sont en échec de leur masculinité et n'ont comme seul pouvoir de domination que de swiper tristement sur leur smartphone, vous êtes un homme 2018, ferme mais accueillant, comme mon matelas Dunlopillo. Bref, je veux juste vous dire que vous plus Mathias Schoenaerts, sur un écran de 20 mètres de long.
Ça t'a fait quelque chose.
Ça fait dans la salle de cinéma globalement beaucoup de femmes très heureuses qui n'ont pas forcément compris l'histoire ni suivi l'intrigue, mais qui sont pleines d'empathie pour vos petits tracas et vos gros dilemmes, et qui sortent de la salle et qui se disent « Ouh là là, mais il était très compliqué ce film !» Mais tout le monde y passe par les fenêtres et par les toits et par les vasistas. Mais pourquoi ne pas sonner à la porte? Et Mathias Schoenaerts, il ne fait jamais rien comme il faut celui-là, toujours il part pas. Il passe par les garages qui font très très peur, alors qu'il pourrait juste livrer la cocaïne par Deliveroo, comme tout le monde, et partir en vacances pour avoir moins de cernes. Pas un cousin de confiance dans ce film, tout le monde il se tire dans le dos. Moi j'ai compris, je suis sortie.
Les femmes parlent comme ça.
Oui, tout à fait. Ma famille, tout le monde parle comme ça. Je suis sortie du film et j'ai compris la morale de Frères Ennemis, Reda. Je crois que la morale de ce film, c'est que la vie, c'est bien de la merde. Voilà. Faut toujours une morale à une histoire. Un prophète, par exemple, la morale, c'est que Neil Sartrup, c'est vraiment un super acteur. Oui. Divine, la morale, c'est qu'il faut pas être gros. Papa ou maman d'eux, la morale, c'est qu'il faut pas enlever son stérilet. Peppa Pig, c'est pareil, c'est qu'il faut pas enlever son stérilet. Comme ça, t'as pas à regarder Peppa Pig. Donc voilà, je suis sortie du cinéma en divaguant comme ça, à toute vitesse, sur des sujets vitaux, en écoutant Vita, et j'errais dans la rue, et je suis tombée sur un kiosque à journaux. Vous voyez ces nouveaux kiosques à journaux, très très éclairés, très très moches, ouais. Mais ils sont quand même plus grands que chez moi, donc moi j'aime bien y aller, j'y reste un peu, je me fais des petites pattes, voilà, bref. J'étais là-bas dans mon F2 de la place Clichy, à repenser à vous et à vos petits tracas et gros dilemmes, quand tout à coup j'ai vu la couve de Psychologie Magazine. Et là j'ai vu la lumière, Reda. Savez-vous qu'il suffit de lire à voix haute les titres de la couverture de Psychologie Magazine pour remettre un peu de joie dans votre vie, gratuitement? Par exemple, ce mois-ci. Célébrez le beau. Tentez l'orgasme. Soyez vous-même. Et si c'était la peur, elle est partie par là. J'ai compris enfin au passage où Guillaume Musso trouvait les titres de ses romans. Et plus je l'ai répété, mieux j'allais. Affrontez l'enfance. Soyez vous-même. Guillaume Musso. Marc Lévy. Elle est partie par là. Il repassera par ici. Oui à la gentillesse. Si à la mode. Si à l'émotion. Et voilà, moi je vais beaucoup mieux. Bonne semaine.
Merci, Agnès Sourcel. La bande originale. Maggie sur France Inter. Le film donc réalisé par David Wellofen avec ce titre Frères ennemis. Vous avez hésité d'ailleurs sur le titre, David. Il y avait plusieurs pistes.
Carrément, oui. Oui. C'est plus qu'une hésitation. C'était, ça s'appelait Territoire avant. Territoire au pluriel.
Ah, c'était trop mieux.
Bien, comme
c'était
mieux. Hein.
Moi,
je trouve ça trop
bien. Moi, j'adore.
Non, c'est Frères ennemis, c'est. Ouais,
c'est... Je crois que Frères ennemis, c'est mieux.
C'est fort.
Mais Territoire, c'était mieux une fois qu'on a vu le film, je pense.
Ouais.
Mais
non, il y a juste le petit piège où on se demande à un moment donné si ce sont de vrais frangins ou pas, parce que c'est vrai que les adultes appellent tous les enfants mon fils, que les potes entre eux s'appellent frérot, enfin on n'a plus la notion de quelle est la famille. Est-ce que la famille c'est l'endroit où l'on vit avec tous ceux qui y sont, ou est-ce que c'est vraiment papa, maman, mon frère et moi? Vous voyez ce que je veux dire?
Ah oui, mais ça j'aime bien, moi j'aime bien cette confusion, effectivement.
Et puis jusqu'au bout on sait pas trop finalement qui est qui, parce qu'on peut avoir un doute sur chacun des personnages. Enfin, moi je suis une spectatrice suspicieuse et je me dis
pour
que finalement
qui était la balance,
bah, dans les méthodes des stupes par exemple, qu'on dit que c'était borderline, il y a certains agissements qui pourraient faire penser à des bandits et vice versa dans le code d'honneur des bandits aussi, ouais. Donc c'est pas aussi manichéen que ça non plus.
Clairement.
Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à la fois c'est un film de voilà, un thriller de bandits, et en même temps il y a une vraie dimension sociale.
C'est vrai que si vous parlez de code d'honneur, c'est vrai que aujourd'hui on est dans une autre période. Enfin, le banditisme a vraiment changé, quoi. Donc le film aussi s'inscrit dans la voyoucratie d'aujourd'hui. Ouais. Enfin, vraiment, on parle de flexibilité des voyous aujourd'hui, quoi. Il y a plus de spécialité.
Mais grâce aux rencontres de David avec les gros bonnets de la drogue, qui sont maintenant ses amis, puisque vous avez dit tout à l'heure que vous les fréquentiez.
Vous voulez des numéros de portable?
Surtout pas. Surtout pas. Mais c'est ce qu'il a dit. C'est ce que vous avez dit.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
Vous avez pu les fréquenter, mais ça doit faire bizarre, non, de discuter avec des voyous.
Ça fait bizarre, d'autant que il y avait une sorte de fascination pour le cinéma. Je crois qu'ils ont accepté de me parler parce qu'il y a une fascination qui est mutuelle d'ailleurs.
Vous les admirez?
Non, je les admire pas. D'ailleurs, je pense qu'on le sent dans le film, qu'il n'y a pas d'admiration pour la vie criminelle. J'espère que quand des gamins voient ce film-là, ils n'ont pas envie tout d'un coup de se mettre à importer de la cocaïne. Je pense qu'on voit que c'est des vies dégueulasses, étroites.
Mais eux, qu'on voit que même ceux qui réussissent leur trafic ne sont pas heureux non plus de.
Je crois pas que ça va rentrer heureux comme vie, vraiment.
Vous l'avez dit tout à l'heure, même l'argent qu'ils gagnent n'est pas une ouverture vers le bonheur pour eux.
Mais les gens que j'ai rencontrés, effectivement, parlaient de ça, de la peur continuelle, et leur problème, c'est pas du tout la police ou la loi, etc. C'est la concurrence, c'est le fait qu'il y a plus de code d'honneur, quand on peut être, il y a des carottes, comme ils disent, sans arrêt, c'est-à-dire des arnaques entre trafiquants sans arrêt, c'est ultra concurrentiel.
Il faut s'adapter au marché.
C'est l'ultra-libéralisme sans aucune...
C'est ça, le libéralisme.
C'est ce que donnerait l'ultra-libéralisme s'il n'y avait aucune sorte de règle ni de loi.
Dans le film qu'ils s'adaptent, qu'ils font ou du trafic ou du braquage et qu'ils sont obligés d'être souple.
Flexible.
Ils ont bien compris le monde dans lequel on vit.
Que ce soit son propre cousin ou un membre de la famille, il peut tuer.
C'est du business.
Pour son business, ouais, c'est ça. On a demandé à un spécialiste, évidemment, de venir nous dire pourquoi ce film, Frères ennemis, sera un succès. Parce que ça sera un succès. Jean-Roger Navarro.
Écoutez, pourquoi que Frères ennemis, ça va avoir un succès, tu peux même pas t'imaginer, Nagui. C'est d'abord à cause que Reda Kateb, il est un comédien épatant, bien sûr. Et cette histoire de deux jeunes, qu'ils étaient comme deux frères inséparables, mais qu'un jour, je te dis pas la barre ou fois qu'ils se sont fait à eux, c'est un thriller formidable, encore plus noir que le chaos serré de mon oncle Roger, quand il buvait pour rester bien nerveux dans les interrogatoires, avec le bottin de Babelouette, vous vous souvenez, vous connaissez. Alors Nagui, ma parole d'honneur, je comprends pas pourquoi vous avez dit à JNB, notre rédac chef fébrile, pour une fois que je vois le film de l'invité, je peux te dire que ce scénar est vraiment pas crédible, mais alors pas du tout. Mais, oh grand maître de la cinéphilie policière, ce film, je le trouve très bien ficelé, mais c'est toi que je ficelle les bougres de macaque. Une intrigue qui se passe aujourd'hui, où le flic intègre est rebeux, et où la racaille, le voyou, est un Gaulois bien blanc, mais c'est complètement invraisemblable. Voilà, voilà, cher Reda Kateb, comment elle se prépare la bande originale. Ça me donne encore plus envie de chialer que si je m'étais brossé les dents, Harissa. Alors juste une remarque, Frères Ennemis, ça me rappelle un des meilleurs épisodes de Navarro, de mon oncle. Les Siamois Ennemis. Que ça s'appelait. L'histoire d'André et de Marcel Touboul, des sœurs siamoises, quand elles étaient jeunes et qu'elles s'entendaient à merveille, comme Driss Emmanuel dans votre film. Mais arrive la guerre d'Algérie. André, elle est pour l'Algérie française. Et elle entre dans l'OS. Tandis que Marcel, qui est pour l'indépendance, elle soutient le FLN. Alors évidemment, ça crée des tensions. Entre les siamoises, malgré qu'elles soient très attachées l'une à l'autre, il y a d'autant plus de rififi qu'André a un amant, Raymond Péricouche, un barbouze, et qu'elle en est dingue, il a fait monter au plafond pendant que Marcel, elle, se fait des solos de mandoline. Mais Raymond, il finit par la tromper avec Marcel, laquelle veut que Raymond, il quitte André, sinon elle le dénonce à Navarro. Vous avez suivi?
Oui.
Bon, voilà de l'histoire qu'elle est belle, monsieur Kateb. Mais à ton compte des studios, je vois que j'ai pas le temps, là, combien il est, ouais, de sortir le bottin de Babelwed, alors je ferai ma démonstration une autre fois. Bonne émission.
Merci,
à bientôt. La bande originale.
Dans cette bande originale, nous parlons de Frères Ennemis. Le film sortira mercredi prochain, porté par Mathias Schoenaerts et Reda Kateb, qui est notre invité. On va justement écouter les musiques de votre vie, la bande originale de votre vie. En 2001, vous écoutiez...
Bonjour ma vie, et vous mes désespoirs, me le voici au fossé, on a qui ma misère. Voici le coin de boue. Mon front fier, voici ma vie à moi rassemblée en poussière.
Ah, il faut présenter le disque maintenant, Reda.
C'est Marché Noir d'Amazir Kateb.
C'est marrant, vous avez le même nom.
Ouais, c'est marrant. Hein.
C'est ouais, c'est, le fils de Yassine.
C'est tombé comme ça, c'était un choix.
C'est le fils de Kateb Yassine.
C'est le fils de Kateb Yassine, l'écrivain algérien.
Grand et ce écrivain, texte, très ouais. Grand écrivain.
Ce texte, Bonjour, en fait, est un texte de Kateb Yassine qu'il a adapté en musique. Et on peut l'écouter encore.
Et qu'est-ce qu'il dit?
Ouais, on peut si vous voulez.
Non,
ouais.
Comme vous voulez.
Ah, c'est un bonbon.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour mes vieux copains.
Vous l'aviez reçu à Taratata d'ailleurs, je suis.
Je veux pas de quelle émission vous parlez. Je... Okay. On n'est pas dans l'auto-promotion, monsieur. Non, mais qu'évoque cette musique? Vous l'écoutez? Vous vous renvoyez où, avec qui, dans quel état d'esprit?
En fait, en 2001, on avait monté ensemble à Roubaix, en résidence, une pièce qui s'appelle « Mohamed prend ta valise », qui avait été écrite par Kateb Yassine. Voilà, j'avais mis en scène ce spectacle avec quatre acteurs et quatre musiciens. On était resté à Roubaix pendant 2 mois pour monter ça. C'est un souvenir magnifique. Roubaix, lorsqu'on rencontre les gens et la vie culturelle de cet endroit, et enfin tous les gens que j'ai pu croiser là-bas, j'en garde un souvenir merveilleux, vraiment. Et c'était une de mes dernières aventures au théâtre. J'ai beaucoup aimé ce moment.
Et ça nous donne l'occasion de parler de votre père, Reda Kateb, qui partageait, vous dites dans les interviews avec Kateb Yassine, un regard un peu parfois perdu sur la révolution algérienne, sur toute cette cette histoire. Comment vous en parlez à la maison? Qu'est-ce qu'on vous disait de ça à la maison?
Vous voulez dire sur ce qu'est devenu l'Algérie après l'indépendance?
Ouais, sur le ressenti de votre père qui était comédien, qui est venu en France parce que de mémoire, hein, il est venu travailler avec Ariane Mouchkine et toute cette grande troupe.
Ouais.
Troupe, pas plutôt.
Troupe.
Le troupe. On va encore parler de ce week-end.
Arrêtez, on l'évoque, je ne vais pas dire la cata, un peu de respect.
Le principe du couple de Leïla, quand on n'est plus nombreux que deux, ça s'appelle un trouple.
Mais moi je suis moderne, ça vous dépasse.
Et encore, c'est la version pauvre de ce week-end.
Oui, c'est vrai. Je travaille, c'est pour ça. Sinon, tu imagines que ça serait. Et alors, dites donc. Non, pardon, arrête. Et Reda, comment on évoquait ça à la maison?
En tout cas, c'est des histoires différentes. Moi, je suis enfant d'immigré, donc je suis né ici. Et c'est vrai que Kateb Yassine, comme mon père, c'était des exilés, quoi. Des gens qui avaient quitté leur terre. C'est des histoires complètement différentes. On parle souvent de voilà, j'imagine le d'ailleurs c'était Yacine qui disait ça, que l'immigré c'est un peu comme quelqu'un qui a amputé et qui continue de sentir sa jambe encore plus que quand elle était là, quoi. Il y a vraiment une chose physique de ça. Et puis ensuite, oui, il y a eu voilà l'indépendance de l'Algérie et tout ce que le pouvoir algérien ensuite a pu voler à son peuple, qui a créé une grande désillusion derrière et tout ce qui a suivi. Donc c'est voilà un grand espoir et une forme de désillusion et finalement la possibilité de mener une vie d'artiste ici en France et de faire ses enfants ici. Ouais. Voilà.
En 2009, vous écoutiez. Chuck Berry of this rap skit, styles I mastered. Many brothers snatched it up and tried to match it, but I'm still number one, everyday real. Speak what I want, I don't care what y'all feel, 'cause I'm my own master. My pop told me be your own boss, keep integrity at every cost, and his home was Natchez. Bridging the Gap de Nas.
Et c'est l'année 2009 d'un prophète, Jacques Audiard, Monsieur Jacques Audiard. Ça dans une carrière, ça doit considérablement changer les choses.
Ouais, carrément. C'est d'autant que c'était le premier film dans lequel je jouais, en fait.
Ouais.
J'avais fait beaucoup de théâtre avant. J'avais joué dans une série qui s'appelait Engrenage sur Canal, mais c'était le tout premier film. Et oui, tout a changé. Et puis c'est une espèce de famille qui s'est faite aussi autour de ce film. J'aime pas trop parler de la famille du cinéma, mais voilà, avec les gens avec lesquels on a fait ce film, Taha Rahim, Jacques Audiard, Thomas Bidguin, Adel Ben-Sherif que j'ai retrouvé sur Frères Ennemis, Slimane Dazi.
Et Mathias Chenard, lui aussi a bossé avec Audiard. Est-ce qu'il y a une famille des comédiens Audiard?
Bah peut-être, faudrait demander à tonton Jacques.
Vous l'avez ressenti ou pas quand vous êtes retrouvé sur
Ouais, moi sur j'avais croisé Mathias au moment de la promotion de Rouillé d'Os. On s'était juste croisés et je crois qu'on avait tous les deux très très envie de jouer ensemble. Et en jouant avec lui, en fait, vraiment dans la réalité du chantier du tournage, j'ai senti qu'on était tous les deux passés par Jacques Audiard. Ouais, de dans sa manière de prise en prise, de ne pas chercher la belle prise bien propre, impeccable, en fait, de toujours chercher.
Ça, j'ai remarqué.
Nous venons de signer un nouvel humoriste.
mais c'est pas mal le concept de famille de Jacques Audiard, parce que en ce sens, Reda Kateb, vous appartenez à la même famille que Joaquin Phoenix, par exemple, avec le dernier Jacques Audiard qui est encore en salle, là, ce western Brother Sister. Tout d'un coup, la famille, c'est sympa aussi, ça s'agrandit bien.
Ah bah, la famille, c'est fait pour s'agrandir, toujours. En tout cas, moi, Joaquin Phoenix, je l'ai jamais rencontré, mais bienvenue dans la famille.
C'est ça, c'est génial.
C'est un acteur que j'admire depuis longtemps énormément, et dans ce film, les Frères Sisters, il fait un travail remarquable.
Ouais. Ouais. Un film France Inter.
Quand on a deux comédiens comme Reda Kateb et Mathias Chenard, je fais toujours attention entre Manuel et Mathias. David, on essaye quoi? De choper l'œil, le moment silencieux, l'image qui va parler toute seule. On est au combo, on est à côté de la caméra et on a la chair de poule sur certaines scènes. Comment ça se passe?
C'est sûr. Ouais, parfois, on a la chair de poule, mais surtout, quand on a des acteurs comme ça, de ce calibre, on leur laisse de la place. On leur laisse de l'espace. On les considère pas comme des marionnettes. Mmh. Vous disiez tout à l'heure qu'on sentait que les personnages étaient vrais, etc. Je pense que c'est parce que les acteurs prennent en charge eux-mêmes plein de détails et que je les laisse faire. Moi, je suis pas du tout un
marionnettiste.
Voilà. Exactement, c'est ça.
Et problème d'élocution aujourd'hui dans cette émission.
C'est plutôt le travail qu'on faisait tous les trois. C'était des discussions. Est-ce que ça te semble vrai? Est-ce que ça te semble juste? Est-ce qu'on peut pas aller plus loin?
Non, mais comment demander à un comédien? Alors, d'accord, lui donner un texte, lui dire de l'interpréter avec tel sentiment, c'est une chose. Et choper quelque chose dans un regard, dans un clignement d'œil, c'est ça qui est magique, quoi, dans le film.
Mais c'est déjà en ne figeant pas le texte, en lui donnant la possibilité de ne pas le dire. Ou de le changer, ou de changer le mouvement. C'est ça qui crée des accidents, c'est ça qui crée aussi des regards.
Ça marche, ça fonctionne en tout cas. Ouais, bravo. En 2015, pour revenir à la musique, vous écoutiez Reda Kateb. Dead Man's Bones, ça vous évoque quoi, pardon, cette musique?
C'est le générique d'un court-métrage que j'ai réalisé qui s'appelle Pitchoun avec Philippe Rebaud, que j'ai écrit pour jouer avec Philippe Rebaud. Que j'embrasse très fort, et qui joue dans L'amour flou, qui va sortir bientôt aussi.
Qu'on va recevoir
ouais.
ici.
Ça
va être trop bien. Et avec Roman Boringer.
Ça me fait penser à Philippe, en fait, cette musique. Mon frère, mon ami.
Ça vous fait penser aussi à Ryan Gosling, j'imagine, parce que c'est son groupe.
Et c'est Ryan Gosling qui chante cette chanson. Et du coup, c'est l'année où j'avais tourné dans un film réalisé par lui qui s'appelait Lost River. À Detroit, aux États-Unis.
Et alors, être dirigé par Ryan Gosling, on a parlé, non, mais c'est vrai, tout d'un coup, on parle de Jacques Audiard, après on parle de Ryan Gosling dans d'autres catégories. Là, c'est aussi un comédien et un metteur en scène auquel vous décidez de faire confiance, parce que finalement, voilà.
Absolument, ouais, moi, j'ai adoré la manière dont il dirigeait. J'ai trouvé que il avait cette chose dont parle David, en fait, de considérer l'acteur comme un partenaire, quoi. Mmh. Jamais, du coup, et le texte, pareil, de ne pas se figer à dire son texte. Donc c'était, moi j'essaye en fait de faire des films avec des gens avec lesquels j'ai envie de passer du temps, mmh. déjà. Et en général, des gens avec lesquels je sais qu'ils vont me laisser la place de m'approprier des choses, quoi. Et donc avec Ryan Gosling, c'était vraiment ça. On a la première scène que j'avais à tourner avec lui, j'avais un long texte que j'avais appris la veille. Et puis en fait, on n'a pas dit le texte et on a roulé en voiture toute la nuit en se disant des petites choses en improvisation.
C'est vraiment son truc, conduire les voitures.
Bah du coup, c'était marrant.
Pas que Drive.
C'était marrant. C'était assez peu de temps après le film Drive et c'était marrant d'être filmé juste par lui à côté. Là, c'était drôle.
Et puis autre événement important en 2015 aussi, on a passé aussi du temps avec vous, Réla Kateb. C'était dans Hippocrate. Vous recevez le César du meilleur acteur dans un second rôle pour ce film de Thomas Lilti. Vous avez vu son dernier né toujours sur l'univers médical.
J'ai hâte de le voir. Je l'ai pas encore vu, mais je vais le voir très très vite.
Ne courez pas, c'est raté. Hein. On les a reçus, c'est raté.
Et là encore, c'est un film même chose que pour Frères Ennemis, qui parle en effet d'un milieu, immersion dans un milieu, mais qui a aussi une dimension sociale, sociétale sur ce besoin de médecins qui viennent de l'extérieur du pays, parce qu'on a besoin de ces médecins, mais qui sont pas traités exactement comme les médecins français, quoi. Voilà.
Série, je crois. Oui, enfin, qui d'ailleurs la série est déjà tournée, je crois qu'elle va passer dans très peu de temps à la télé.
Nous allons et nous recevons Jérôme Pierra, qui est à ce micro. Merci Jérôme de venir.
Merci à vous.
Parler. Vous êtes journaliste, scénariste, écrivain. Vous co-signez avec David B une bande dessinée qui s'appelle Le Grand Banditisme, qui est publiée à la
Bédéthèque
petite
Bédéthèque
des Savoirs.
Ouais, voilà. Super collection.
L'édition du Lombard. Voilà.
Et
signal pour eux.
Tout est précisé. Vous vous connaissez apparemment tous les deux avec David.
Oui, on a travaillé ensemble.
Vous êtes rencontrés en prison, c'est ça?
Au pied d'un immeuble en train d'acheter du shit.
Je fais partie des grands trafiquants que j'ai rencontrés, en fait.
Avec modération. Chut,
ça balance, ça balance. L'idée de deux destins comme ça opposés, flic et voyou dans la cité, qu'un enfant d'une cité devienne policier et se retrouve presque à devoir arrêter ses copains d'enfance, c'est crédible, c'est une
c'est crédible. Alors,
ça arrive.
C'est arrivé. Il y a des policiers qui sont issus des quartiers sensibles. Il n'y a pas que des dealers dans la cité.
De là à aller enquêter sur ses propres.
Famille. C'est crédible. Non, mais évidemment, c'est une pirouette scénaristique, mais ça peut arriver. Oui, oui.
Ce côté liaison dangereuse entre flic et voyou, c'est ça. Par contre, c'est
l'histoire de la police et de la voyoucratie, ça. Ouais. Alors, particulièrement dans les stupes, parce que c'est la spécialité où les genres se mêlent le plus.
Il y a eu l'affaire Nerret l'année dernière.
Vous en avez une autre en plein dedans, avec l'office des stupes, 7 tonnes de haches découvertes, je sais pas si vous vous rappelez, avec le patron de l'office des stupes, etc., où on lui reproche d'avoir facilité le trafic du plus gros fournisseur français, Sofiane H, le bien nommé.
Mais c'était hashish, etc. C'était quoi? C'est toujours en échange d'informations, c'est-à-dire que c'est là où la frontière est.
Si vous laissez trafiquer, c'est pas juste, ou alors vous êtes juste un ripou, mais effectivement, c'est compliqué. Toute la matière, de toute façon, policière, que ça soit, dans les stupes ou autres, c'est que, il faut bien donner quelque chose en échange. Alors même si le rôle de l'indique, c'est assez trouble, la personnalité des indiques, souvent, sont des gens qui ont un truc psychologique, qui ont envie d'exister. Non, mais c'est assez trouble. Hein. Et les meilleurs indiques, souvent, c'est ceux que vous contraignez pas ou que vous achetez pas. Il y en a qui se livrent gentiment, amicalement, et qui sont contents d'exister.
C'est quoi la différence entre indique et tonton?
C'est la même chose. Tonton, c'est les flics qui disent ça. Voilà. Les autres, ils disent balance. Et puis, voilà. Poucave. Voilà, mais bon. Mais, non, mais tout ça pour dire que, voilà, c'est un échange qui a été, qu'on a essayé d'encadrer, de légaliser, il n'y a pas très très longtemps, parce que face à toutes les dérives que ça entraîne, ou en tout cas aux compromissions obligatoires, peut-être qu'on y reviendra, de la part des policiers, compromissions entre guillemets, pour faire leur métier, on a essayé de l'encadrer. Le législateur, il a pondu des textes, etc., des lois, en disant, bon, alors voilà, on va rémunérer les indics, on va faire un fichier, comme ça il n'y aura plus de trucs bizarres, vous verrez plus des gens, on n'aura plus le soupçon que vous êtes un ripou, etc., etc. Seulement, comment vous voulez lutter quand vous allez offrir à un indique ou à un tonton 30 000 euros pour faire tomber un trafic international de stupes qui rapporte des millions, le mec va risquer sa vie, il peut toucher 10 fois plus, donc c'est complètement... Donc on est obligé de toute façon de continuer cette voie-là.
Donc ça veut donc dire qu'ils peuvent se retrouver à aider un petit trafiquant pour attraper un poisson plus gros. C'est ce jeu-là, c'est il y a une échelle de valeur.
Vous pouvez aider des gros, c'est plutôt ce qu'on laisse passer. Normalement, le curseur, il est là. C'est-à-dire que si vous voulez taper... Non, souvent, on tape un gros... Faut pas se leurrer, hein. Dans cette discipline-là, il y a quasiment que des indices, ça va pas leur plaire, mais chez les importateurs de stupes, en gros, il y en a beaucoup qui travaillent avec la police. Il y en a énormément. Que ça soit la police française, la police espagnole, pour les importateurs de hache, si vous prenez les 15 plus gros importateurs de hache français, tu veux faire des copains, il y en a peut-être la moitié qui sont tontines, qui ont des échanges.
Est-ce qu'ils tontinent maintenant?
Tontine, c'est encore autre chose, voilà. quand même, c'est la cotisation pour le groupe.
C'est la communauté chinoise, la tontine, oui.
Donc
le curseur, il est plutôt à ce que je laisse passer pour ce que je peux récupérer. Donc là où
ça veut donc dire qu'un dealer est obligé de balancer de temps en temps des informations pour être tranquille dans son trafic.
Ah, mais quand vous arrivez à haut niveau,
je vous demande de répondre à mes questions. Ouais.
Oui, parce que quand vous arrivez à très haut niveau, Jérôme, le petit, il a moins besoin. Le petit, c'est pas un enjeu. Alors on s'en fout un peu du petit dealer, mais c'est le commissariat de quartier qui intéresse les baqueux ou le commissariat de quartier.
D'accord.
Le gros voyou, lui, arrivé à un moment, il est tellement exposé, il va être tellement connu, il est tellement dans un système, dans un cartel économique, les stupes, c'est vous ne les faites pas tout seul, c'est pas un braquage, mettez une cagoule, les mains, peau de lapin, vous rentrez dans une banque tout seul, on n'en parle plus.
C'est un sacré voyou, vous, voilà, les mains, peau de lapin, vous devez faire peur aux gens.
Il faut être 10, 15, 20, 30.
Mais attends, tu sais quoi? Donc, on va en parler, parce que vous avez co-signé un livre avec Redouane Faïd, qui est actuellement en cavale. Mmh.
Donc, vous avez des informations?
Non, mais c'est pas ça. Donc,
il arrive.
Donc vous aussi, dis un petit mot.
Je crois qu'il est assis au premier rang, là.
Ah, il a regardez, vous voyez cette dame.
La rhinoplastie est exceptionnelle.
Donc vous êtes obligé de jouer avec les limites, avec les frontières.
Ah, mais moi, je ne fais que... Moi, je travaille sur, effectivement, le monde criminel, enfin les voyous professionnels, hein, pas les assassins de vieilles dames. Depuis 20 ans, effectivement, le parti pris que j'ai, c'est de voir le loup plutôt que celui qui l'a vu. Donc, je travaille rarement avec la police ou la justice. Je travaille plutôt, j'essaye de travailler, pas du côté, mais aux côtés des voyous.
Ils vous séduisent, ces voyous?
Non, mais il y en a qui sont sympas. Je veux dire, il y a, comme dans tous les métiers, c'est un métier, mais, donc vous allez rencontrer des gens sympathiques, vous pouvez lier des amitiés.
Je sais pas si on veut dire c'est un métier.
Ah, c'est des carrières professionnelles. Après, qu'elles soient
c'est quoi la meilleure formation pour devenir un voyou qui a réussi?
La fiche métier en considération. Ouais.
Ben justement, c'est d'apprendre enfin, faire carrière comme un métier, c'est-à-dire d'y aller étape par étape. Ce qui est le changement avec la voyoucratie d'aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, on brûle plutôt les étapes. C'est des étoiles filantes. Les types, ils passent du commissariat de quartier au 36 quai des Orfèvres à peu près dans la même année. Avant, on apprenait step by step. On allait pour le voleur voler au supermarché, puis commencer à faire des petits cambriolages, puis après braquer une banque, puis après attaquer un fourgon blindé, etc., etc. Donc ça s'apprend.
D'accord, c'est un message à tous les jeunes qui nous écoutent. Voilà, et qui veulent dans ce métier. Allez-y, étape par étape.
Il y a le brevet, il y a le baccalauréat, il y a les grandes écoles.
Voilà, merci. Persévérez.
Surtout,
échecs. Et à l'inverse, dans la police, ceux qui se retrouvent dans la police et qui sont des fonctionnaires et qui risquent leur vie et qui voient passer des fortunes et qui voient passer des peut-être de la réussite côté voyous. voyous et un manque de reconnaissance dans leur métier, est-ce qu'ils n'ont pas tendance à basculer, à devenir ripoux?
Bah, ça arrive, il y a des cas régulièrement de ripoux, on n'en parle pas tout le temps, il n'y a pas de grosse médiatisation forcément, c'est quand c'est des commissaires de police ou des gens qui sont soupçonnés. Ouais, hein. Ouais. Mais effectivement que c'est tentant quand vous gagnez 2000 euros par mois, que vous y passez 80 heures par semaine, vous voyez pas votre famille, c'est plutôt un métier ingrat qu'on vous traite de con toute la journée.
C'est ça.
Forcément.
Et que vous risquez votre vie autant que
que le voyou. Bon, les voyous, ils la risquent plus, parce que c'est ce que disait David, ils ont plutôt tendance à se tuer entre eux, hein, de se cannibaliser, les voyous. Donc c'est moins la police qui craigne que leurs collègues.
Et d'ailleurs, dans le film, il y a un truc intéressant, c'est le capitaine de police qui dit, voilà, on sait qui est en place dans cette cité, en parlant de ce vieux monsieur qui régit un peu tout. Si on l'abat, si on l'arrête, un autre va venir derrière et on ne saura pas. Est-ce que ça, c'est une technique?
Oui, c'est la technique policière, d'ailleurs, qu'on parlait des gros importateurs.
C'est pour ça qu'Inter et Garnaghi, hein, ils se disent qu'après, ça pourrait être pire.
C'est mal vu, monsieur.
Oui.
Tu vois, toi, ça vient de toi, ça?
Oui, complètement.
Non, mais on en revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire les gros trafiquants.
Oui, Jérôme.
Les policiers des stupes, ils sont pragmatiques à haut niveau. Ils se disent, de toute façon, on ne va pas arrêter le trafic de stupes. La guerre à la drogue, elle est perdue depuis longtemps. On ne l'a jamais réduite. On a augmenté les budgets, etc. Ça n'a jamais rien changé. Donc, autant qu'on connaisse ceux qui le font, qu'on sache à peu près les contrôler, entre guillemets, plutôt que ça soit des inconnus qui viennent et qui financent, je sais pas quoi, le terrorisme, qui fassent n'importe quoi, etc. Donc, il vaut mieux laisser des gens dits, entre guillemets, sérieux en place, qui travaillent bien. Non, mais c'est comme ça. Il y a un moment, il faut être pragmatique et puis, c'est tout. Et les flics le sont dans cette matière-là. Ils ont plus aucune illusion. Le type qui travaille depuis 10 ans dans les stupes, il arrive pas peut-être que le premier mois, il est son étoile de shérif et il se dit, je vais nettoyer la place. Au bout de 3 ans là-dedans, il a compris, il a vu l'envers du décor et il se dit, bon, on va essayer de faire au mieux. Mmh. Et au mieux, c'est ça. C'est d'essayer de garder les gens qui sont sérieux en place et d'écarter les brebis galeuses qui peuvent faire n'importe quoi.
Donc, c'est une bataille perdue d'office pour la police, pour vous?
Bah, évidemment que c'est perdu. Si elle était gagnée, vous pouvez prendre l'histoire de l'humanité dans n'importe quel pays. Trouvez-moi un pays qui a réussi, dont la police a réussi à endiguer le trafic de drogue. Le trafic
de drogue est exponentiel. La Colombie, moi je trouve que c'est une réussite.
La Colombie, on a doublé en 10 ans la production, le trafic.
Ouais, parce qu'il n'y a plus de pesticides.
Dans le même temps, les États-Unis ont quadruplé leur budget de lutte contre les stupes. Enfin voilà, tout est dit. C'est pourquoi on en arrive à légaliser dans certains pays, c'est pas pour une histoire de contre-culture où on est underground ou machin.
Alors, est-ce que c'est la solution, justement? Bon, est-ce que c'est la solution pour arrêter le trafic?
Ah, je sais pas. C'est la solution, mais il y a beaucoup de pour dans cette histoire parce que ça représente beaucoup beaucoup d'argent de lutter contre le trafic de stupes pour finalement que dalle à la fin. Légaliser, ça en rapporterait beaucoup qu'on pourrait réutiliser à des fins, je vais pas faire le Père Noël, mais éducatives, etc. dans ces quartiers-là. S'il y a ces 250 millions d'euros le budget de la police pour lutter contre le trafic de stupes, notamment dans les quartiers sensibles.
Enfin, ça serait pas forcément légaliser la drogue ne serait pas forcément une manière de supprimer le banditisme ou le trafic, puisque le tabac est légalisé et ça n'empêche pas des trafics de tabac et des ventes de...
Non, effectivement, bon, enfin, le trafic de cigarettes par rapport à la consommation de tabac, je peux vous dire qu'il est assez minime.
D'accord.
Donc, non, après, vous pouvez utiliser tous les arguments, ça va se reporter sur un autre produit plus violent, enfin, plus, voilà. Sauf que les études vous montrent que, par exemple, l'usage de cocaïne, d'héroïne, etc., il y a un plafond de verre, contrairement à l'usage, on parle de la fumette, hein, du hashish, etc., contrairement à l'usage des drogues dites douces, qui sont de beaucoup plus largement populaires. La consommation de cocaïne, elle a explosé en France, sauf qu'elle a atteint son plafond de verre depuis quelques années. Elle ne bougera plus. Elle ne bouge plus. C'est bien pour ça qu'on en a eu en Europe, c'est qu'aux États-Unis, on en a produit.
Ne faites pas de prosélytisme. Non, mais moi, je pose la question.
Mais la
qualité est meilleure maintenant.
J'ai pas d'avis et j'ai pas la réponse là-dessus. Mais en tout cas, les questions se posent. Et puis, vous savez, aujourd'hui, dans la majorité des voyous, ils sont dans le trafic de stupes parce qu'il n'y a plus grand-chose d'autre à faire. Donc, ils n'iront pas braquer des banques à la place puisqu'il n'y a plus rien à voler dans les banques.
On peut dire un mot sur l'affaire Néré?
Oui, alors on n'est pas tout à fait dans le trafic de stupes.
Voilà.
Michel Néré a été condamné, enfin longtemps soupçonné et condamné pour être... alors, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, ça, bon, voilà, la justice a tranché, mais un ripoux, c'est-à-dire avoir donné des infos contre rémunération.
Olivier Marchal est persuadé que non.
Je connais bien Michel Néré, alors je suis un peu gêné d'en parler, parce que c'était un grand flic, il l'est plus, mais c'était un vrai grand flic. Donc après, c'est pas à moi de juger, il y a la justice pour ça, je suis pas procureur et je suis pas, ni avocat.
Non, mais je pense qu'Olivier Marchal va faire un film sur l'affaire Néré, non?
Oui, en tout cas, il y travaille. Mais oui, Michel Deray fait un livre. Bon, en tout cas, il est optionné, donc on verra ce que ça va donner.
Parle d'une comédie musicale.
Mais, voilà, c'est ça. Une comédie romantique. Ouais. Et mais voilà, mais donc oui, là on n'est pas, dans le. Là, on est dans. On lui reproche une compromission pure, de l'argent contre des renseignements. Voilà.
Le grand banditisme, co-signé par David B. et Jérôme Pierrat, dans la collection La Petite BDTech des Savoirs. Merci en tout cas d'être venu à ce micro, Jérôme Pierrat. On va reparler évidemment de Frères Ennemis dans la dernière partie de cette émission. Mais d'abord, Tanguy Pastureau, bonjour.
Bonjour Nagui.
Jusqu'à
bonjour.
Hier, le rappeur Nick Conrad était un parfait inconnu.
Oui, à côté Agnès Buzyn, c'était une star internationale adulée par le public. Mais hier, il a percé sur le net avec une chanson qui n'a pas recours à la licence poétique afin d'adoucir le propos, puisqu'elle s'intitule « Pendait les blancs ». Alors, vu le nombre qu'il y en a, à la boule, il représente 100% de la population. Hein, il va falloir de la corde.
On en parle juste après les infos. C'est la bande originale. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec Leïla Kadoboudadi, Agnès Hurstel, Tanguy Pastureau, Albert Algou.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour Daniel.
Et nos invités, puisque nous parlons de Frères Ennemis, Reda Kateb avec son réalisateur, David Eusen. Mais d'abord, Tanguy Pastureau, parlons avec vous. Et on commence tout de suite. Et on accueille chaleureusement Tanguy Pastureau.
Allez, Tanguy Pastureau !
Tanguy !
Toxicomane !
L'amour est rare dans notre monde, dites-vous.
Oui, moi par exemple, je ne suis qu'amour. Et quand un autre chroniqueur fait un papier plus drôle que le mien, c'est arrivé l'an dernier, en mars, et ben je lui dis, profite bébé, c'est ton moment, Andy Warhol, tout ça. Il me répond, qui ? Bah oui, Nagui, vous n'avez pas pris que des flèches. L'amour, c'est pas facile, faut s'ouvrir à l'autre. Si ça va trop loin, il faut se doucher. Et puis on a l'air un peu con. Quand John Lennon en 69 était à poil dans son pieu en train de se faire épouiller par Yoko Ono pour protester contre le Vietnam, certains trouvaient ça risible, alors que ça aurait été plus simple pour lui de retirer sa couette et les yeux révulsés hurler « Do you know where you can put people, motherfuckers ?» La haine, c'est accessible à tous, il suffit de faire remonter toutes les blessures en soi-même. La fois où en CE1, Nathan s'était barré avec notre plus gros calot en métal. Celle en 94 où dans le boîtier du CD de Definitely Maybe d'Oasis, les mecs du magasin Nuggets par erreur avaient foutu le best-of des forbans. Celle où vous avez dit votre salaire à Nagui et où il vous a répondu « Tu déconnes » avant d'éclater de rire. On est tous cabossés à l'intérieur. On peut tous trouver des raisons d'en vouloir à l'autre. Aux juifs, parce qu'on est dans l'échec et qu'un con nous a dit qu'il contrôlait le monde, alors qu'il ne contrôle même pas la discographie de Patrick Bruel. Aux africains, parce qu'un con nous a dit qu'ils respectaient leurs anciens, eux. Et nous alors, ça fait 20 ans qu'on paye 139 euros chaque année pour que Michel Drucker se pose sur son canapé sur la 2. Ou aux chinois, parce que leurs dragons là, qui sortent pour le carnaval, ils sont clairement inspirés de la tête de Martine Aubry pour la faire. Ils copient tout sur nous. Bref, l'amour est difficile, la haine est à portée de tous. Aussi ne fus-je pas surpris hier en découvrant le clip d'un rappeur, Nick Conrad, intitulé « Pendez les Blancs ». Hein, les Blancs sont ces gens qui kiffent Eddie Depreto parce que ça groove, mais qu'en même temps c'est sombre. On peut tortiller du cul en se tranchant les veines. Alors le clip est d'une violence rare. Hein, pour faire plus hard, il faudrait que dans la série Rex, le berger allemand devenu fou mange un enfant tout en s'excitant contre la jambe non épilée de Geneviève de Fontenay. On y voit un blanc pendu et des mecs à casquette de tour qui rappe. Pour ceux qui étaient restés sur MC Hammer, ça fait bizarre. Mais avant de le pendre, Nick Conrad dessape le type et lui met un flingue dans la bouche. Moment de poésie rare puisqu'il dit, je cite, « Vous aimez ça, sucez des bites, les blancs. » Alors que, pas tous. Hein. Moi, j'ai 2-3 exemples d'amis à qui vous proposez ça et qui vous répondent « Écoute, moi, j'aurais plutôt fait une sortie bowling, l'Aqua Boulevard, si t'aimes nager. » Alors ensuite, le blanc est pendu. C'est un acteur. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un mec à qui on a dit « On va faire un clip qui appelle à pendre les gens comme toi, on va t'humilier, tu seras bénévole parce qu'on n'a rien », et qui a répondu « Ouais, super !»
Ouais, immédiatement évidemment a démarré une intense polémique.
Oui, Eric Ciotti d'abord a réagi, lui c'est toujours le premier. Hein, il a monté une cellule chez lui et ses neveux 24h sur 24 surfent sur le net en tapant mécréant et nique la France pour trouver des clips de rap anti-français. Parfois il y en a un qui dit « Ouais, j'ai un vieux son de Solar, victime de la mode », les autres répondent « Mais enfin concentre-toi,
pas gros. Estrosi, Retailleau, Collomb, Mélenchon ont réagi aussi, et la LICRA, hein, qu'on accuse souvent de complaisance lorsqu'il s'agit du racisme anti-blanc. Bref, pas mal de monde. Il faut dire que les paroles de la chanson, c'est « Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents ». Donc déjà, Nick Concon, là, il n'a pas d'enfant. Parce que tu rentres dans une crèche, mon pote, t'as 40 mômes qui hurlent. Donc t'es mort avant de les tuer. Certains djihadistes revenus d'Alep ont mis leurs gosses à la crèche. Ils ont dit « La vache, c'est violent. Daesh à côté, c'est un disque de Bossa Nova d'Elysée Moon écouté dans un fauteuil de relaxation ». Mais Conrad dit aussi, et ça, personne n'a relevé, « On va inverser le commerce triangulaire ». Et c'est ça la clé du truc de cette haine anti-blanc. C'est l'histoire, l'esclavage. On a l'impression que c'est loin. Mais dans une société sans lien commun, où le seul projet pour un être, c'est de se payer l'iPhone X machin là, eh ben on rumine l'histoire. Et l'histoire, c'est terrible. La Saint-Barthélemy, la guerre de 100 ans, la terreur, Waterloo, le nazisme, le génocide kurde, Stone et Chardin, le Yémen là. Mais moi, quand je vois Stéphane Bern ouvrir une porte tout sourire pour nous parler de monarques qui systématiquement nous ont foutu dans le mur, j'ai envie de lui crier, vas-y mec, pleure, à un moment, faut que ça sorte. Lâche-toi, Steph. Et puis, un truc pour finir, Nick Conrad, là, avant de lâcher le morceau Pendez les Blancs, était à 200 abonnés sur Twitter. Il était moins suivi que Nicole Belloubet. Hein, parce que tout ça, c'est aussi pour le buzz. Clairement. Moi, si demain, je sors un morceau qui s'appelle Coupons la tête des Australiens, j'aurais pris le peuple le plus loin de nous pour éviter qu'il me casse la gueule, eh ben, on parlera de moi aussi. Je serai célèbre. Ça sera autre chose que de passer sur Inter à midi. Donc, son plan com, il est fait. Mais quelle carrière on construit là-dessus? Celle de leader fasciste, de serial killer, c'est limité. Quand on a chanté « Pendez les Blancs, tuer leurs enfants », c'est compliqué d'amorcer un virage R&B en reprenant du Craig David. Hein, moi, je suis blanc. Bon, j'en suis ni fier ni honteux, j'y peux rien. Ma mère aurait pu craquer sur un roi de la biguine en soirée zouk. Ça, c'est pas fait. Eh ben, « Pendez les Blancs », mais ça me fait mal, je m'identifie. Comme Gérard Collomb quand dans Star Wars, il voit Maître Yoda parce qu'il a 800 ans. Alors, interviewé par RTL hier, Nick Conrad a dit « En fait, quoi, eh bien, on n'avait pas compris. Hein, le problème, c'était nous. Que derrière, il y avait un message d'amour. » Enfin, tuer les bébés, c'est un message d'amour que délivrerait Marc Dutroux si l'âme de Charles Manson était venue habiter son corps. Mais quel Conrad, ce connard. Enfin, l'inverse. Bon. Pardon, j'oubliais que je ne suis qu'amour. Vous voyez la haine comme ça vient vite. Il suffit de peu de choses. Hein. Un enfant qui en CE2 a pris vos billes. Un homme qui, en 2018, parle de tuer des bébés dans des crèches. Non, ça, en fait, c'est pas peu de choses.
Merci beaucoup.
La bande originale, Nagui. Sur France Inter.
Tanguy Passureau, le 13 octobre, il sera à Cournon en Auvergne en spectacle et on le retrouve évidemment demain sur Inter dans la bande originale. Parlons de ce frères ennemis, de ses frères ennemis. Votre film David Holofen avec Mathias Schoenaert, avec Reda Kateb et Adèle Benjerif, Sofiane Zermani, Nicolas Giraud, Sabrina Ouazani, Gwendoline Gourvenec, Marc Barbet, Astrid Wetnal, Yann Goven, Omar Salim et Ahmed Benaï. Ça, ils ont chacun leur vie et différentes vies, Reda Kateb, mais même vous d'ailleurs, dans le film, le policier n'a même pas une vie stable, un couple avec enfants. Ils sont tous un peu paumés, soit divorcés, soit enfants seuls, soit des gardes partagés. C'est triste aussi comme constat de vie aujourd'hui.
Célibataire avec un enfant à charge, quoi. Il s'occupe de sa fille, mais on s'aperçoit que de temps en temps, c'est sa fille qui doit avoir 12 ans qui s'occupe de lui un peu.
C'est les questions qu'elle lui pose. C'est vraiment de l'ordre de... Bon, au départ, quand on voit cette scène-là, vous rentrez tard le soir dans cette chambre, on pourrait imaginer, si on ne regarde pas vraiment précisément, que c'est votre femme, dans la préoccupation qu'elle a de vous.
Elle lui dit, je t'ai laissé quelque chose à manger. Oui.
C'est elle qui s'occupe de lui.
Oui, il y a cette chose-là. Et en même temps, ces deux personnages-là, comme ce n'est pas souvent le cas dans les polars, on leur prête une famille, on leur prête une vie, même si voilà, elle est plutôt abîmée.
C'est ce que je voulais dire, c'est qu'on voit en fait que ce sont des gens normaux, que ce soit les policiers, les dealers, les familles autour des voyous, ils ont une vie en société.
Ouais, voilà. Je pense que c'est des petites touches
avec
en fait qui participent aussi au fait à rentrer dans l'humanité des personnages quoi de ce film les deux petits moments où on voit le personnage de Manuel et le mien Driss sourire, c'est lorsqu'ils sont au contact de leurs enfants.
Exact.
Du coup, ça, je pense que cette chose-là imprime autre chose que le côté, voilà, les polars français habituels où le flic n'est que flic et le voyou que voyou. Ils ont une vie, quoi.
Il n'a peur de rien, Mathias Schoenaert, enfin son personnage dans le film. Le seul moment où il craque, c'est en prenant son enfant dans ses bras. Le reste du temps, il a peur de rien, il est prêt à tout défoncer et il va il va défier tout le monde, mais son enfant c'est son talon d'Achille.
Ouais, et du coup Mathias voilà qui est vraiment un super acteur, il confond pas lui et le personnage quoi. Il passe pas le film aussi à essayer de montrer que il est costaud, etc. Il va dans les failles du personnage, il nous montre ça effectivement, il y a des gros voyous qui sont capables de faire des choses terribles mais qui sont dans l'intimité au contact de des choses les plus intimes, très fragiles.
Et la réussite David de votre film, c'est que avec cette toile de fond de voyous, de gangsters, de policiers, de poursuites, et une véritable énigme parce que c'est une enquête, on ne sait pas et on est pris aussi par la tension de savoir qui a fait quoi et quel sera le dénouement de cette affaire. La toile de fond est très humaine, elle est vraiment de la vie quotidienne, mais ça reste un film noir à suspense avec une tension. Et je parlais tout à l'heure de votre réalisation et surtout de la manière dont vous filmez avec cette caméra. Qui me paraît particulièrement légère et très proche du mouvement.
Elle était réellement très légère, très, très petite, effectivement, ça c'est les avancées technologiques.
Ah, c'est vrai ?
Oui, c'était un tout petit boîtier, on a filmé, c'est le premier film qui est tourné avec des optiques Leica, qui sont des optiques photographiques très petites, qui ont été adaptées au cinéma, donc on avait vraiment un tout petit truc dans les mains, ce qui nous a permis de filmer, par exemple, sous les voitures, il y a un moment, il y a une scène de poursuite sous des voitures, ou dans des endroits très exigus, ce qu'on n'aurait pas pu faire, comme ça, en tout cas, on n'aurait pas pu le faire pareil.
Ce qui permet à un comédien, quand il rentre dans une pièce, de fermer la porte.
Exactement.
Non, parce que dans les films, le comédien ouvre la porte, on le suit comme ça, mais
sans passer l'opérateur,
il y a tout le travelling, là, il peut fermer la porte.
Absolument, c'est le grand avantage, c'est ça la révolution. On ferme les portes maintenant.
En tout cas, c'est une réussite ce film.
L'image est particulièrement belle. J'ai pour chacun de ces deux personnages principaux, j'ai des plans très très précis en tête, ce qui est assez rare après un film. On a l'histoire, on a l'intensité, parce que c'est vrai que c'est haletant, qu'on se demande jusqu'au bout. Moi, je me suis demandé jusqu'au bout ce qui allait bien pouvoir se passer, mais j'ai surtout des plans très très précis en tête avec une lumière assez incroyable, que ce soit Mathias Schoenaert dans sa voiture en attente. Là, on a l'impression que tout d'un coup, il y a plein de lumières artificielles, alors que tout simplement, ça doit être, je sais pas, celle de l'enseigne d'en face qui rend le personnage comme ça un peu inquiétant.
Ce que j'aime beaucoup, moi, dans l'esthétique du film, c'est que David a cherché à montrer ces lieux de banlieue, ces cités, ces barres d'immeubles avec leur beauté et leur leader, en fait. Ouais. Et très souvent, le cinéma soit enjolive, soit...
Elles ont une très belle vue d'ailleurs. On voit tout Paris illuminé. On voit les.
C'est beau graphiquement.
Ouais, c'est très beau. Du côté de la porte de Bagnolet, donc ça a été tourné.
C'était tourné à Romainville et les Lilas, une cité qui s'appelle Gagarine.
C'est ça.
Les Centres.
Où il y a la tour de communication.
On voit dans tout le 93 cette énorme tour là, un peu de l'espace. Là. Mais effectivement, on a essayé de filmer la banlieue pour se rapprocher du sentiment qu'en ont leurs habitants. C'est-à-dire que c'est des lieux qu'on peut en même temps aimer et détester. Ouais. C'est pas que de la haine, c'est pas que du rejet. Au contraire, il y a un fort sentiment d'appartenance. Et dans le filmage, on a essayé de recréer ça.
Une barre d'immeubles, c'est un peu un village à la verticale aussi. Ouais. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très chaleureux qui existe, qu'on voit pas souvent.
Avec cette notion donc de frères ennemis, deux amis d'enfance, enfin plusieurs amis d'enfance, ils ont grandi ensemble, il y a de l'amour entre eux et l'un est parti du côté de la police au stup, l'autre a choisi comme carrière professionnelle, pour reprendre ce que disait tout à l'heure Jérôme, le trafic de drogue. Et c'est vrai, on le voit bien Daniel dans ce film, la frontière entre flic et voyou peut devenir floue, encore plus complexe d'ailleurs quand on a vécu dans le même milieu, quand on s'aime, il y a des souvenirs d'enfance, on sait de quelle galère on vient. C'est pas facile d'oublier.
Mais qui l'a ferme celui-là ? Nom de Dieu, j'en peux plus. Leïla, retiens-moi. Non, retiens-moi au final. File-moi une de tes boucles d'oreilles que je lui tranche la gorge de Playmobil sarrasin transsexuel. Non, mais qu'il se taise, bon Dieu ! Ou qu'il parte sur RTL2. Oh, j'en peux plus de ces raisonnements moites de mafieux communistes analphabètes. J'en chiale, merde. J'en chiale du sang mélangé à du pu, ce qui nous donne un mix ketchup mayo bien dégueulasse. Vous voyez, j'en suis Monsieur Guy, vous voyez, là où Stéphane Bern, Isabelle Giordano, Frédéric Lopez et André Manoukian ont échoué, vous allez réussir. Vous allez avoir ma peau, sans déconner. Quand je vous entends, émotionnellement, je suis écorché vif. Alors, oui, c'est vrai, question filouterie. Vous en connaissez un rayon, hein. Vous êtes fourbe comme un Cahuzac devant une déclaration de revenus. Vous êtes roublard comme un Rocco devant un troupeau de jeunes vierges. Mais vous êtes con comme un CRS devant un livre sans images.
et qui me disait, juste avant l'émission, « Oh non, encore un polar, je vais encore avoir peur !» Déjà, quand je regardais Eric Jurine de Trouille sur le canapé, hein, qui me disait tout ça, ben, je vais vous le dire. Une personne au physique aussi particulier que dégoûtant. Une personne qui a planqué chez elle une bonne partie du trésor caché des nazis. Une personne qui se dit végane, mais qui en réalité mange à chaque goûter des sandwichs au phoque. Ah oui, parfaitement. Agnès, ton haleine t'a trahi. Maudit humoriste au physique de douanière. Merde. Et puis, monsieur Guy, cessez donc avec vos analyses aussi fétides que pourraves. Quand on est flic, on est flic. Quand on est voyou. Voilà. Sauf, bien sûr, à Levallois-Perret, monsieur Guy ou le maire, votre ancien amant, un certain Patrick B, aime bien brouiller les pistes. Hein. Désolé, mais encore une fois, vous avez dit...
N'importe quoi.
France Inter, la bande originale. Avec Nadie.
En fait, vous connaissiez tous les deux, David et Reda. Vous connaissiez tellement que vous avez préparé un rôle pour jouer sous la direction de David et vous n'avez pas été engagé.
Exactement. Ouais, ouais, ça remonte à une quinzaine d'années. Il fallait que ça sorte, David, à un moment ou à un autre. Ouais, mais c'était une espèce de rendez-vous manqué qu'on avait eu. Moi, c'était une période où je passais des essais de temps en temps, assez rarement.
C'était pour nos retrouvailles.
Pour nos retrouvailles, il avait besoin d'un boxeur et moi, j'avais jamais fait de boxe, mais j'avais assuré que j'étais boxeur lors des essais.
Menteur comme tous les comédiens et comme tous les acteurs qui veulent un rôle, c'est ça?
Exactement.
Bravo, Reda. Exactement. Alors là, franchement.
J'ai eu beau écumer tous les clubs de boxe autour de chez moi, faire de la corde à sauter du matin au soir. Je crois pas que j'étais crédible en boxeur, mais en même temps, il a pris un vrai boxeur qui a été coupé au montage. Donc, l'un dans l'autre.
La vengeance de
lui. Il me faisait croire qu'il était boxeur, moi je lui faisais croire que j'étais réalisateur.
Et le vrai boxeur faisait croire qu'il était acteur. Enfin bon, c'est vraiment une histoire.
Le nombre incroyable, David, d'actrices ou d'acteurs qui, à ce micro, ouais. Mais donc, voilà, disent « Mais évidemment, chaque fois que je veux un rôle, je dis que je sais piloter un hélicoptère, que je sais faire du cheval, que je sais faire de la boxe, que je sais plonger en apnée. » Pour obtenir un rôle, est-ce que quand on est réalisateur, on sait à quel point les acteurs mentent?
Oui, mais d'ailleurs on le sait, mais on le sait pas assez en fait, parce que c'était très très particulier, parce que c'était vraiment pour cette raison que j'avais pas travaillé avec Reda et que ça n'avait aucune importance. Mais je l'ai appris par la suite.
Et qu'est-ce que vous vouliez comme qualité dans les acteurs pour Frères Ennemis? Qu'est-ce que vous avez d'abord recherché au-delà de la justesse évidemment des comédiens?
Quelle belle idée de les avoir réunis les deux, quoi. D'où vient l'idée en plus?
Parce que c'est ces deux comédiens, vous le disiez tout à l'heure, qui dégagent beaucoup de virilité, de force, mais qui n'ont pas peur d'aller dans la fragilité, dans la sensibilité. Que ce soit Reda ou Mathias, c'est des gens qui ont suffisamment de confiance en leur jeu, en eux, pour jouer la féminité, la fragilité. Et c'est ce qu'il fallait pour ce film, sinon ce film n'avait aucun intérêt. Si c'était pour montrer des hommes sur deux, sur virils, je pense que le sujet du film s'effondrait. Donc voilà.
C'est ça. Il y a déjà l'affaire de testostérone avec les armes, avec la manière dont ils s'en servent. Donc il y a le côté cow-boy qui existe déjà. Il fallait qu'il y ait une hypersensibilité à côté de ça.
Pour moi, les armes dans ce film ne servent qu'à montrer mieux la fragilité par contraste. Moi, je m'en fous des armes. J'ai aucune espèce d'intérêt pour ça. Et je pense qu'au contraire, c'est une façon de. Enfin, pour moi, le thriller, le polar, c'est un contenant. Et ça sert à mettre le contenu qu'on voulait avoir nous tous ensemble. C'était cette fragilité, cette perte des repères. On sent qu'on est dans un monde où c'est très difficile d'être sûr de son itinéraire, sûr de soi. Et voilà ce qu'on voulait montrer.
Ouais, la tension est autant dans l'enquête que dans la psychologie entre eux. C'est-à-dire qu'ils se regardent les uns les autres en se demandant qui va trahir le premier et l'autre, qui est éventuellement la balance, d'où vient le danger. Il n'y a aucun moment où les personnages, je parle de tous les personnages, quel que soit le côté de la ligne où ils sont, peuvent regarder. Je parle même des flics entre eux, je parle évidemment les voyous entre eux en se disant « Ok, lui, j'ai confiance en lui ». Il y a toujours le regard avec « Qu'est-ce qu'il va me faire comme crasse ?»
Parce qu'on est dans un monde absolument sans loyauté, en fait. C'est
non,
un monde sans loyauté.
Côtés. Non, mais des deux côtés.
Des deux côtés, ouais. Et l'amour n'a rien à voir
même
avec ça.
C'est-à-dire même les policiers quelqu'un. Entre eux se font des crasses.
Quoi. Oui, tout à fait. Et ça n'a rien à voir avec le sentiment, ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on peut porter à quelqu'un. Ça ne protège absolument pas du manque de loyauté. Et je pense que tous les personnages en sont conscients.
Oui. On parlait tout à l'heure de l'amour flou. Vous êtes dedans, vous jouez dans le film?
Je joue une scène dans ce film, ouais.
Et le film sortira le 10 octobre prochain. On recevra Romane Bohringer à ce micro d'ailleurs pour en parler. C'est l'histoire vraie en plus.
D'un boxeur.
De Philippe et Romane. Non, mais c'est leur histoire.
C'est leur histoire de sépartement en fait. Ils ont décidé de séparer comme couple, mais de continuer de rester en famille avec une chambre dans laquelle il y a une chambre des enfants, dans laquelle il y a une porte qui va vers chez maman et une autre vers chez papa. Il reste une famille, c'est l'amour.
Le film sort le 10 octobre et ils seront nos invités le jour de la sortie du film, le 10 octobre, à ce micro. Le 20 février, on vous retrouvera dans Le Chant du Loup d'Antonin Baudry avec Omar Sy et Mathieu Kassovitz. Là, vous avez fait croire à Antonin Baudry que vous étiez capable de faire quoi
De commander un sous-marin.
C'est que dalle. Voilà.
Bien sûr.
C'est que dalle. Okay.
C'est quoi Le Chant du Loup?
Le Chant du Loup, c'est le premier film de sous-marin français. Ouais, il y a un genre de film de sous-marin. En tout cas, moi, je suis féru de ce genre-là. J'adore les films U-boat, voilà, Das Boot.
Il y avait le feuilleton. Il y avait 20 milieux sous les mers, qui était génial aussi. Vous vous rappelez pas de ce feuilleton américain?
20 milieux sous les mers. Non, j'ai pas vu celui-là, mais
il y a plein de films. Il y a le film 20 milieux sous les mers.
Oui, mais il y avait un feuilleton. Non, mais il y avait un feuilleton. Je suis sûr. Il y a un truc. Ah ouais, si. Je regarde ça pendant toute mon enfance. Je suis pas sûr du titre, mais je vais vérifier. Donc, alors oui, ce film-là.
Et voilà, c'est un film à la fois un film à grand spectacle avec des sous-marins, avec quelque chose de très large et en même temps réalisé par Antonin Baudry qui avait écrit Quai d'Orsay, la BD, qui avait écrit le speech de Villepin à l'époque à l'ONU, qui est un ancien diplomate qui fait son premier film, du coup qui a pas choisi un film intimiste comme premier film, c'est un chantier incroyable. Et qui à travers ce film voilà raconte aussi quelque chose du contexte aujourd'hui nucléaire, géopolitique.
Il est déjà dans le rôle,
il parle dans le film de sous-marin et il renverse une bouteille avec des anneaux partout. Le feuilleton s'appelait Voyage au fond des mers et pas 20 milieux sous les mers. C'était Voyage au fond des mers le feuilleton.
Non mais laissez David, c'est pas très grave.
On vous verra ensuite dans Submergence de Wim Wenders où là vous
c'est un sous-marin qui a coulé.
Là vous jouez.
Il y a des sous-marins aussi dans celui-là, ouais, c'est vrai. Ouais.
Vous jouez quoi? Des Somaliens qui prennent un otage?
Oui, je joue un lieutenant des Al-Shabaab, des terroristes d'Al-Qaïda qu'on peut trouver en Somalie notamment, et qui prennent James McAvoy en otage. Ouais.
Et puis, je l'ai déjà dit, je le répète, vous serez dans le prochain Olivier Nakache et Eric Toledano aux côtés de Vincent Cassel dans Hors Normes, un film dont on reparlera avec...
Catherine Mouchet aussi.
Si on est là l'année prochaine, ouais. Tu vois, c'est en octobre 2019 que ça sort.
Ah oui, c'est vrai qu'on peut être viré.
C'est ça. On ne sait jamais parce qu'il n'a pas commencé à tourner. Vous n'avez pas commencé à tourner, Reda, Hors Normes.
Je commence demain. Et ben voilà. Demain matin.
D'accord. Vous me promettez, si on est viré, de ne pas venir faire la promo dans l'émission qui nous remplacera. Mais arrêtez.
Fidélité, loyauté.
Des excuses à présenter, Daniel.
Bien sûr, déjà désolé pour les entrepreneurs, capitaines d'industrie qui se sont lancés avec succès, souvent dans le commerce de la vitamine, une vitamine appelée cocaïne. Des entrepreneurs qui ont été souillés, malmenés, vilipendés par toute l'équipe de Focus Toxicomane qui forme cette bande originale, les amis. Désolé pour les habitants de Roubaix. Oui, à 11h36, Reda Kateb a dit que Roubaix, c'était génial. Oui, c'est du foutage de gueule. On sait que culturellement, socialement, au niveau de l'hygiène, vous vivez le martyr. Désolé, enfin, pour tous ceux qui peuvent s'offrir une radio, bien sûr, et qui peuvent m'entendre. Désolé pour tous les invités qui s'emmerdent à arriver à l'heure, à l'émission. On a vu avec Reda Kateb qui est arrivé 50 minutes en retard. 40 minutes de promo, ça suffit bien avec certains. C'est même beaucoup trop.
Merci David Wolfen d'avoir été notre invité. Surtout bravo pour ce film. Vraiment,
merci
bravo.
Merci d'avoir comblé le premier quart d'heure.
Bravo à vous aussi, Reda Kateb, et nos amitiés à Mathias Schoenaerts. Vous formez un
très beau couple.
Très beau, très beau couple d'acteurs pour un très bon film qu'on vous encourage à voir. Mercredi prochain, ça sera le 3 octobre. Demain, Muriel Robin sera notre invité et nous parlerons des violences faites aux femmes. Et tout de suite, ce sont les carnets de campagne avec Philippe Bertrand.